Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, que Dieu soit glorifié. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Heureux de nous retrouver ce matin dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ.
Pour avoir glorifié Dieu, nous allons maintenant méditer sa parole. Gloire à Dieu.
Et dans la méditation de la parole de Dieu, je vous en avais un petit peu parlé dimanche dernier. Dimanche dernier, Dieu a permis que nous puissions nous arrêter sur ce sujet ô combien important dans une vie, dans une église, où nous avons reçu la parole de Dieu suite à une lecture que nous avons faite dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, où nous avons lu dans Ruth, le chapitre 3, verset 10, si je ne me trompe pas, cette déclaration de cette jeune femme qui a pu dire comme une confession, et cette confession n'était pas autre chose qu'une réalité vécue, elle a pu dire, tu as parlé, tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Je ne me suis pas trompé, hein? C'est ça, hein? Alors, 8, le chapitre 2, verset, attendez, je vais reprendre verset 13, voilà. Donc, pour vous qui étiez présents, nous avons fait un petit peu le tour de ce récit et nous avons vu l'expression de cette jeune femme et une petite remarque que j'ai faite, c'est que tout au long du récit ou dans beaucoup d'endroits dans le récit, dès lors que le nom de Ruth était mentionné, il était associé au nom de Ruth, son origine. Il faut souvent dire Ruth, la Moabite. C'est un peu une manière de spécifier l'origine de l'étrangère. Ruth, la Moabite. C'est comme si lorsque vous parlez du pasteur Gentil, du pasteur Gentil, un pasteur antillais, pasteur martiniquais. Mais vous dites vrai. Vous n'êtes pas obligé de spécifier que le pasteur Gentil est un pasteur de couleur, pasteur antillais, puisque Dieu le sait d'où je viens. Mais c'est une manière pour nous de bien vouloir montrer ou expliquer ou marquer, eh bien, avec des traits particuliers, la personne dont nous voulons parler. Oui, la Moabite. Alors, c'est une Moabite, donc Moab. Nous savons qu'en ce temps-là, Moab fait partie des ennemis d'Israël, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on pourrait retirer comme explication, mais quoi qu'il en soit, le plan de Dieu se déroule, et même si, comme je vous ai expliqué, quelquefois nous pouvons nous retrouver tributaires de nos choix, c'est le cas, sont tributaires de leur choix, partis pour faire un séjour en Moab, ils se sont installés dans le pays. Donc, vous me direz, pasteur Gentil, mais d'où venait-il? Il venait de Bethléem. Bethléem, cela signifie littéralement la maison du pain. Ils avaient quitté Juda qui signifie littéralement maison de la louange, pour aller faire un séjour en Moab. Ceci à cause du fait qu'il y avait dans le pays une famine. Or, vous savez, frères et sœurs en Christ, que fort souvent nous nous retrouvons ou nous pouvons nous retrouver tributaires de certains choix que nous aurons faits suite au fait que le regard de la chair, notre regard humain, nous a induit en erreur, c'est-à-dire nous a amené en dehors du plan et de la volonté de Dieu. Vous êtes toujours là ce matin avec moi? Bien. Mais malgré tout, c'est ce qui est formidable, c'est que malgré le fait qu'elle se retrouve tributaire d'un choix, le mari est mort, le beau-père est mort, Et puis, elle se retrouve seule avec sa belle-mère. L'autre belle-fille est partie vers son pays, vers ses dieux, mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et son langage, qui va définir son attachement, va montrer qu'elle puisse, après que la belle-mère ait essayé de la renvoyer vers son pays, non, elle dit non, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. L'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort me sépare de toi. C'est un attachement que nous définirions comme étant un peu fusionnel. Mais ça, c'est le travail de Dieu, ça. C'est le travail de Dieu qui, lorsqu'il a un plan, un dessein, il crée des circonstances qui sont tellement fortes et que des liens qui, heureusement, eh bien, nous lie un peu comme ce que Dieu a fait pour nous. Il a lié notre sort à celui de son Fils Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et puis, c'est dans ce cadre-là qu'elle va s'exprimer ainsi et elle dira que je ne suis pas, moi, comme une de tes servantes et puis cependant, tu m'as témoigné de l'intérêt. On a vu qu'il y a la consolation par le témoignage de l'intérêt que Dieu nous porte. Deuxièmement, on a vu qu'il y a le témoignage parce qu'elle a fait cette confession ou elle a reçu cette parole que Dieu te rende ce que tu as fait en venant te réfugier sous ses ailes. C'est-à-dire la consolation parce que Dieu nous a placés dans une place privilégiée, placée sous son aile. Lieu de la sécurité parce que le refuge, dans le sens biblique, c'est ce qui définit le lieu secret de la sécurité. Et puis, après la Bible nous montre qu'elle a mangé. Elle a mangé quoi? Du grain rôti. Ça veut dire que ce grain rôti pourrait nous montrer que le grain était déjà prêt à être consommé. Un peu l'image de la parole de Dieu, du pain et du grain rôti, un peu l'image de la parole de Dieu qui possède tous les ingrédients spirituels préparés et consommable par notre âme. Gloire à Dieu. Et puis, on a vu le dernier point qui était important aussi, où la Bible nous dit que Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Et l'Éternel permit qu'elle puisse concevoir. Je vous ai posé la question, vous vous souvenez, ceux qui étaient présents, qu'est-ce qui va sortir de ce dernier train? Ah oui, ce matin, vous êtes au courant parce que vous l'avez déjà entendu. Mais oui, mais quand j'ai posé la question dimanche matin, il y a que notre frère bien-aimé Saint-Ange qui a eu la réponse éclairée par le Saint-Esprit. Et vous savez, ce matin, pendant que je réécoutais le sujet, assis dans mon canapé, je me réjouissais. Et je nommais le frère Saint-Ange. Frère Saint-Ange, tu es repéré, hein? Tu es dans la cassette, hein? Enfin, tu es dans le sujet. Je t'ai nommé parce que c'est à toi que Dieu a donné la réponse et l'Église l'a partagée. Cela veut dire que Dieu nous rappelle qu'il y a la source de consolation qui découle du fait que nous sommes objets de son alliance. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons ouvrir un autre volet. Et pour ouvrir cet autre volet, frères et sœurs en Christ, c'est un sujet que j'ai partagé avec l'Église il y a peut-être plus d'une quinzaine d'années en arrière, si ce n'est pas plus, mais qui revient maintenant sur le terrain, parce que nous sommes en plein dedans, la manifestation de la grâce de Dieu. Nous savons que dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles, particulièrement dans l'Évangile de Jean, la Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, nous allons regarder comment déjà dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu la semaine dernière concernant Ruth, la Moabite, la grâce de Dieu était manifestée dans certaines circonstances. Et de manière merveilleuse, parce que si Dieu manifestait sa grâce en ce temps-là, de certaines manières, sous certaines conditions, mais c'est pour ouvrir un champ prophétique qui nous ramène à l'aujourd'hui, et on ne peut dissocier l'aujourd'hui de notre réalité d'enfant de Dieu, mais en Jésus-Christ. Alors, regardez avec moi dans le livre de Samuel. C'est là que nous allons trouver dans le récit concernait comment la grâce de Dieu sera active à partir d'une préoccupation que Dieu met dans le cœur du roi. Cela se trouve dans le deuxième livre de Samuel. Et nous allons regarder au chapitre 8 pour trouver quelques particularités qui, en les considérant, vont nous amener un peu sur le terrain. Et nous allons utiliser cela pour, en quelque sorte, planter le décor. Nous allons planter le décor pour entrer dans la manifestation de la grâce de Dieu qui est le thème de la méditation de ce matin. Si nous regardons 2 Samuel chapitre 8, verset 1er, nous pouvons lire, « Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. » Puis, nous pouvons aussi nous arrêter dans 2 Samuel 8, verset 2, et nous lisons, « Il bâtit les Moabites. » Puis nous allons au verset 3, où nous lisons, « David bâtit Hadadézer, fils de Rehob. » Et là, nous sommes confrontés à des Syriens. Puis, on continue. Verset 5. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba. Et David bâtit, dites avec moi, 22 000 Syriens. Gloire à Dieu. Et puis, mes bien-aimés, on peut lire encore le roi David, verset 8. Le roi David prit une grande quantité d'airain à Betchat et à Berotai, ville d'Hadadézer. Puis, si on va au verset 11, nous allons voir que David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Oui, on peut aller un peu plus bas. Verset 13. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit un nom en battant dans la vallée du sel, 18 000 Édomites. Mais il ne s'est pas contenté de battre 18 000 Édomites. Verset 14, il mit des garnisons dans Édom. Alors ça veut dire que frères et sœurs en Christ, quand nous lisons tout ce qui est mentionné concernant David, c'est une tranche de la vie du roi et de son royaume où Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Le royaume est en pleine extension. Dieu lui donne autant la victoire sur ses ennemis. Dieu lui donne du repos de tous côtés. De telle manière que nous avons lu que David mit des garnisons. Il a mis des garnisons dans Édom. Cela veut dire que même après avoir pris des territoires, remporté des victoires, j'ai regardé derrière ce mot garnison, qu'est-ce qu'il y a? Derrière le mot garnison, il y a l'établissement dans un pays étranger de votre propre armée. Cela veut dire que le royaume est autant en extension, Dieu donne des victoires. Enfin, Dieu se glorifie au travers toutes ces victoires que David remporte. Mais c'est là ce qui est important. Au sein de toute cette réalité qui est dressée devant nous, le roi a néanmoins une préoccupation. Alléluia. Un peu comme ce qui serait l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui a terminé avec son ministère terrestre, qui est rentré dans la gloire du Père, qui est intronisé dans le ciel, et qui cependant, je n'ai pas dit que Jésus a une préoccupation, mais je dis que l'attitude de David pourrait ressembler à celle de Jésus qui non seulement se préoccupe, et regardez l'attitude du roi. Dans 2 Samuel 9, verset 1. Et David dit, donc le décor est dressé, nous voyons l'extension du royaume, nous voyons la paix qui règne, les fils de David sont ministres d'État, enfin, tout est dans un ordre, non pas selon David, mais selon Dieu. Mais néanmoins, le roi a une préoccupation qui va découler de cette déclaration du verset 1. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Gloire à Dieu, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? La préoccupation du roi, c'est de savoir s'il reste encore quelqu'un pour que le roi lui fasse du bien à cause de Jonathan. Eh bien, là, nous sommes exactement, frères et sœurs en Christ, sur le terrain de la grâce. Alléluia. Là, nous voyons que David désire faire du bien à cause d'un autre. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, Dieu veut nous faire du bien à cause d'un autre. Et celui à qui, par lequel Dieu veut nous faire du bien, à cause duquel, eh bien, c'est à cause de son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus que Dieu me fait grâce ce matin. C'est à cause de Jésus que Dieu désire me secourir ce matin. Pourquoi? Mais c'est en Jésus-Christ que Dieu m'a adopté. Si je suis objet de la grâce de Dieu, c'est parce qu'un jour Jésus a payé le prix du rachat de mon âme. Parce que Jésus est mort à cause de mes péchés. C'est parce que Jésus a livré sa vie comme la rançon qui devait être payée, afin que moi, à cause de mes péchés, là où le jugement de Dieu m'était destiné et réservé, sa grâce me soit proposée. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la préoccupation de David, c'est qu'il lui fasse du bien à cause de Jonathan. Pourtant, frères et sœurs en Christ, vous qui connaissez un petit peu l'histoire de David, la maison de Saül n'a pas toujours été pour David une maison glorieuse où David a reçu du bien. Mais ce qui est formidable, c'est que lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne cette capacité de mettre notre gloire à oublier les offenses. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Ah, je sais que certains disent, moi, je pardonne, mais j'oublie pas. Ça, c'est la chair qui dit ça. On est spirituel. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on met sa gloire à oublier les offenses. Car les offenses qu'on n'oublie pas et qui nous titillent, qui nous tiraillent, ça nous ronge à l'intérieur et ça vous empêche de vous épanouir sur le plan spirituel, que Dieu soit béni. Mets ta gloire à oublier les offenses. Pourquoi? Agis comme ton Père céleste. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Quand on est miséricordieux, on pardonne. Et après avoir pardonné, même si c'est difficile, on demande à Dieu la grâce d'oublier les offenses qui nous ont été faites pour avancer. En un mot, Dieu nous donne par sa grâce à posséder les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On continue. Et puis, le verset 2 s'ouvre ainsi, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba. Il n'y a pas dit qu'il était Siba, hein. Il s'appelait Siba, c'était son nom. Hein. comme moi je m'appelle Claude, lui s'appelait Siba. Que l'on fit venir auprès de David, le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi lui dit, il va répéter ce qui a été dit en premier, mais notez bien que la première parole qu'il a prononcée, il a dit « Quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. » Nous sommes sur le terrain de la grâce. Mais regardez comment la grâce, dans sa manifestation, va s'exprimer. Regardez. Verset 3. Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül et ceux qui changent pour que j'use envers lui ?» De la bonté de Dieu. Premièrement, il a dit pour que je lui fasse du bien, à cause de Jonathan, le terrain de la grâce. Mais là, nous sommes sur un autre terrain qui n'est pas autre chose que la manifestation de la grâce, mais dans la continuité, pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu vous a fait grâce, ce n'est pas simplement quand vous avez cru pour le salut. Mais il est pensable que tout au long de ma marche avec lui, tout le temps de mon pèlerinage terrestre, la grâce qui m'a été accordée quand j'ai cru pour le salut, c'est la même grâce qui continuera à se manifester dans ma vie jusqu'à ce que Dieu me fasse quitter la terre. Est-ce que vous dites amen?
Amen.
Pourquoi ce matin, pasteur Gentil, vous nous dites ça? Mais je sais que notre Père Céleste n'est pas un Dieu avare de grâce. Lorsque sa grâce se manifeste, elle se manifeste à notre égard, indépendamment de ce que nous pourrions penser, elle se manifeste à notre égard dans tous les domaines de nos vies.
Amen.
Chaque jour qu'il nous laisse sur la terre. Chaque jour. Parce qu'une fois que Dieu vous a pris en main, ce qui a de l'intérêt pour lui, c'est que vous terminiez la course terrestre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire attaché à Jésus-Christ, son Fils, et à sa parole, afin que les promesses vous échoient et que vous puissiez y entrer merveilleusement et partager avec Jésus-Christ son royaume pour l'éternité. Est-ce que vous le savez, frères et sœurs en Christ? Il y a un héritage merveilleux qui nous échoit, qui nous est réservé, qui nous attend. Ici-bas, c'est les souffrances, les combats, les luttes, les chutes, les relèvements, etc. Mais malgré tout cela, Dieu a un plan merveilleux qu'il a préparé. Et il nous a pris, nous associant à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, liant notre sort au sien, et nous sommes en route pour pouvoir hériter, selon la promesse de Jésus, de la vie éternelle. Gloire à Dieu! Alors, regardez la suite, mes bien-aimés. Donc, on a vu la petite variante. User envers lui de la bonté de Dieu. Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Et notez bien, lisez, ce fils de Jonathan, il a une particularité, c'est qu'il est perclus des pieds. Et j'ai regardé derrière ce mot perclus, et j'ai trouvé que le fait d'être perclus, cela veut dire qu'il y a une infirmité qui est en quelque sorte incorrigible. Quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors je me suis permis de regarder dans quelles circonstances Mephibosheth est devenu perclus. Parce que Mephibosheth n'est pas né perclus. Il n'est pas né perclus. Hein. Mais cela s'est passé lors d'un accident de la vie. Et lorsque la mort de Saül et de Jonathan, son père, ont été proclamés, la nourrice a pris l'enfant, parce que dans ce temps-là, lorsqu'on tuait le roi, et son fils, la cruauté allait jusqu'à tuer aussi sa descendance. Donc la nourrice l'a pris, et pour qu'il échappe à la mort, ils se sont enfuis. Et en s'enfuyant, malheureusement en s'enfuyant, c'est ce que nous révèlent les Saintes Écritures dans 2 Samuel 4:4. L'enfant a fait une chute. Et dans la chute, cette chute a été marquée dans ses membres inférieurs, si bien qu'il se retrouve perclu des pieds. Alors, si je veux transposer cela sur le plan spirituel, cela veut dire que malgré le fait qu'aujourd'hui, je peux, par la grâce que Dieu me fait, marcher droit, je ne suis pas perclu des pieds. Mais dans la transposition spirituelle, il y a quelque chose qui m'a rattrapé déjà quand j'étais enfant et dès lors que j'ai commencé à avoir l'âge de raison, a commencé à se manifester en moi. Cela s'appelle le péché. Notez bien, parce que vous allez comprendre comment la grâce de Dieu, quand elle se manifeste, indépendamment de ce que je suis dans la chair, mais néanmoins accordée, parce que c'est ça. La grâce est une faveur que je ne mérite pas, mais que Dieu m'accorde en vertu de son amour à mon égard, et surtout qui découle de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du calvaire. Donc nous avons bien vu que Mephibosheth, de son nom, il y a une circonstance qui a fait que. Notez bien, frères et sœurs en Christ, parce que vers la fin du récit, Dieu va nous rappeler comment la grâce de Dieu non seulement a été manifestée, mais où la grâce de Dieu est capable de nous placer, autant sur le plan spirituel que sur le plan divin. On y va? Continuons. Ah, je sens que ça commence à devenir intéressant. Alléluia. Je sens que le Saint-Esprit est en train de nous donner à entrer dans une trame. Ce n'est pas un scénario. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est une réalité spirituelle dans laquelle Dieu nous conduit ce matin afin de nous montrer la dimension de sa grâce en notre faveur. On y va? Continuons. Alors, il a encore un fils. Particularité, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Makir, cela signifie littéralement le vendu. Un peu comme nous étions vendus au péché. Fils d'Amiel. Amiel, cela signifie littéralement sans pâturage. À l'Obéda. Donc il habitait à l'Obéda. Verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, là où il habitait, fils d'Amiel, à l'Obéda. Un peu quand Dieu venait me chercher par le Saint-Esprit, Dieu savait où me trouver. Quand Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il vous cherche. Il sait qui vous êtes. Il sait où vous trouvez. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il sait ce qu'il va faire pour vous sortir de votre misère. Et quand il vous prend en main, avec le Seigneur, ça commence. Mais béni soit Dieu, ça ne se termine plus. Mais je vous le dis, hein, avec Dieu, ça commence un jour, lorsque la révélation vous est accordée. Mais ça ne se termine plus. Vous êtes en route pour l'éternité. Avec Jésus. On continue. Donc, il a été cherché dans la maison de Makir, fils d'Amiel, la maison de celui qui est le vendu. Fils d'Amiel, celui qui est sans pâturage, il n'a pas de pâturage, et puis à l'Obéda. Et verset 6, Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Mephibosheth.
Alléluia.
Il répondit, me voici. Voici ton serviteur.
Je l'avais dit, frères et sœurs en Christ, en l'appelant ainsi Mephibosheth, David sait qui il est. Mais dans la grâce qu'il est appelé à obtenir ou qui est appelé à lui être manifestée, cela veut dire que, comme nous l'avons vu pour cette jeune femme, Moabite, il y a littéralement un désir divin de manifester à son égard un intérêt particulier. Et cet intérêt particulier, j'ai noté que ça pourrait s'appeler un désir de communion. Car quand vous le regardez sur l'aspect extérieur, nous avons vu qu'il est perclus des pieds. Et derrière ce mot Mephibosheth, il est important que nous en tirions une leçon qui aura un rapport avec le sens étymologique de Mephibosheth. Mephibosheth, cela signifie littéralement celui qui a honte. Ça signifie celui qui a honte. Et derrière son nom, on pourrait définir qu'il avait honte de ses origines. Des fois, on a honte de ses origines. On a peut-être aussi honte de son nom. On a peut-être honte de son handicap. Car tout cela révèle la dimension de nos incapacités. Mais c'est ça qui est formidable. Plus je me sens incapable, c'est Dieu là. Plus la grâce de Dieu va m'être accordée. Parce que je suis dans l'incapacité de me confier en moi-même. Je suis incapable de me confier en ma vieille nature, en ma chair. Je suis limité dans mes actions. Quelqu'un a dit quelque part, en faisant un constat sur sa propre vie, pourtant, c'est un homme de Dieu remarquable. Il a pu dire de lui-même, constat d'échec, misérable que je suis. Pourquoi? Parce qu'il a vu son incapacité dans sa chair. Incapacité comme nous ce matin, nous pouvons faire le constat dans notre chair aussi. Hein? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, dans l'homme nouveau. Et je trouve dans mes membres une autre loi qui est la loi du péché. Et qui me rend incapable. J'ai la volonté, je n'ai pas le pouvoir. Constat de misère. Misérable que je suis dans la chair. Question, qui me délivrera de ce corps de mort? Réponse, grâce soit rendue à Dieu. Tiens, voici encore le mot grâce qui arrive. Frères et sœurs, réjouissez-vous avec moi ce matin. Sur la grâce de Dieu, quand elle se manifeste, n'est pas destinée à me faire pleurer. N'est pas destinée à me faire sortir le mouchoir pour essuyer mes yeux. Mais l'apôtre dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. À qui s'adresse-t-il? À des Philippiens, comme nous. Objet de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mephibosheth, celui qui a honte de ses origines, il a honte de son handicap, il a honte de l'histoire de sa famille, et puis il a même honte de son corps avec un handicap. Il a contracté lorsqu'il était enfant, mais qui le poursuit parce que cet handicap habite en lui. On continue? Est-ce qu'on continue?
Oui.
Bien, mais d'accord. Donnez-moi votre approbation, s'il vous plaît.
Je veux que vous puissiez participer avec moi, hein. Voilà. Donc, un fils perclu que nous avons vu et tout ce que la grâce de Dieu va lui apporter. Donc, voici qu'il est maintenant devant le roi qui désire communier avec lui. Verset 7. La première parole qui va sortir de la bouche du roi, dans le désir de lui manifester la grâce de Dieu. Qu'est-ce que David lui dit? David lui dit, dites avec moi, ne crains point. Ne crains point. La raison? Car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père. Et en te faisant du bien, à cause de Jonathan, que va-t-il se passer? Je vais te rendre ce que tu as perdu. Quand la grâce de Dieu se manifeste, Dieu est capable de te rendre ce que tu as perdu. Je vais te rendre ce que tu as perdu. Te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et après avoir dit ne crains point, après avoir dit je te rendrai, mais la suite, lisez avec moi la suite. Lisez la suite. Ah, et tu mangeras. Et tu mangeras. Ah, c'est pas le dimanche matin seulement. Hein. Notez bien, et tu mangeras toujours à ma table. Vous avez dit, le handicap n'est pas un problème pour moi. Ta tare dans la chair n'est pas un problème pour moi. Ma grâce te sera accordée, non seulement pour te délivrer de la crainte, je veux te rendre les terres, et puis tu mangeras à ma table. Alléluia! Nous avons vu que Ruth était placée sous l'aile du Tout-Puissant. La grâce nous place toujours dans le lieu secret qu'est le refuge à l'ombre de l'aile du Tout-Puissant. Amen. Mais là, le perclu des pieds, celui qui a honte de lui-même, Dieu entrevoit déjà son futur. Dieu est en train de parler de son futur là. Hein. Je vais te rendre les terres et tu mangeras à ma table. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Une fois que le roi lui a dit ces paroles, le voici à nouveau qui se prosterne. Et le fait de se prosterner devant le roi montre non seulement l'estime qu'il attribue à David, un peu comme l'estime que ce matin le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs concernant Jésus-Christ, car je ne me prosterne pas devant un homme, je me prosterne devant Jésus-Christ qui est mon Seigneur, qui est mon Dieu. Il se prosterne. Et non seulement il se prosterne, mais va sortir de sa bouche quelque chose qui est en rapport avec son nom, sa situation, sa position sociale, son tare dans la chair, perclu. Et ce n'est pas qu'il se dévalorise. Ce n'est pas qu'il se dévalorise. Quand la grâce de Dieu m'est accordée, je ne me dévalorise pas. Mais je sais qui je suis. Et souvent, vous avez entendu la bouche du pasteur Gentil, en moi, il n'y a rien de beau. Voilà, frères et sœurs en Christ, c'est ça. Plus vous connaissez votre misère, alors plus vous allez apprécier la grâce dont vous êtes l'objet. Et voici la déclaration de Mephibosheth. Pourtant, le roi lui a dit de ne pas craindre. Hein. Le roi lui a dit, je veux te rendre les terres. Une promesse, tu vas manger à ma table. Mais tout cela, c'est bien la manifestation de la grâce à mon égard. Mais je sais qui je suis. Cela veut dire que je reconnais que je ne mérite rien. Allez, regardez. Il se prosterna. Et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes, un chien mort tel que moi. Vous savez, dans la loi, le chien était considéré comme un animal impur. Déjà considéré comme impur parce qu'il est vivant, mais si c'est un chien impur et qui est mort, ça veut dire qu'il est doublement impur. Alors, Mephibosheth va se comparer à un chien. Mais chez moi, cela veut dire qu'il reconnaît la dimension, dites avec moi, de son inutilité. Je suis nul. Je ne mérite rien. Je ne suis pas autre chose que semblable en comparaison à un chien mort. Mais tu t'intéresses à moi, tu me regardes. Alléluia. Tu me regardes et en me regardant, tu vois déjà la dimension de la grâce dont je serai l'objet de ta part. C'est ce que ça veut dire. C'est ça, frère et soeur en Christ, quand Dieu s'intéresse à un malheureux, à celui qui a honte de ses origines, de ce qu'il est dans la chair. Car plus tu as honte de ce que tu es dans la chair, plus tu vas apprécier ce qui découle de l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a accompli, pour que non seulement tu sois sauvé, mais pour que la grâce de Dieu continue à être ton partage. On continue ? Alors voici ce qu'il déclare, après s'être prosterné, voici le roi va appeler Siba. Il a fait la déclaration, mais le roi, verset 8, appela Siba, serviteur de Saül, et il va confirmer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit à Mephibosheth, il lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » La grâce continuant à se manifester, tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Un détail qui va nous amener à la fin du verset 10. Lisez, or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça fait combien? 35 personnes. Ils vont maintenant être actifs pour travailler, cultiver les terres pour que Mephibosheth ne manque de rien. Cela veut dire que M. Mephibosheth, indépendamment de tout ce qu'on peut voir extérieurement, handicap, tout ce qu'on veut, chien mort, tout ce qu'on veut. Mais voici que M. Mephibosheth est devenu, par la grâce de Dieu, ce que nous pourrions appeler aujourd'hui, dans le moderne, un cadre supérieur. Mais oui, il y a 35 personnes qui travaillent pour lui. Moi, j'ai personne qui travaille pour moi. Ben oui, il n'y a personne qui travaille pour moi. Je ne suis pas un PDG, moi. Mais M. Mephibosheth, une fois que la grâce de Dieu lui sera accordée, 35 personnes vont travailler pour lui. C'est ça, quand Dieu prend une situation en main. Écoutez, ce n'est pas Pasteur Gentil qui l'a rêvé. Hein. Ce n'est pas moi qui ai décidé ça, c'est l'Écriture. Hein. Je ne vous dis que ce que Dieu fait pour s'arrêter sur la vie de misérable, perclu des pieds, impotence, incapacité, limite, mais objet de la grâce parce que Dieu l'a décidé. Gloire à Dieu. Vous savez qu'on va tout doucement vers la fin, mais je vous ai dit qu'il y a des détails qui ne sont pas du tout négligeables. Allons-y. Donc, nous avons vu que M. Mephibosheth, par l'ordre donné à David, à M. Tsiba, eh bien, devait cultiver les terres pour que Mephibosheth ait à manger. Mais ce qui est formidable, c'est que malgré les récoltes, malgré toute la culture, malgré l'agriculture, malgré les 35 personnes, où est-ce qu'il mangeait? Il mangeait à la table du roi. Je l'avais dit, les cultures étaient faites. C'était fait pour lui. Mais il avait sa place à la table du roi. Mais il y a un détail qui arrive. Vous allez comprendre pourquoi ce matin. Le Saint-Esprit veut t'ouvrir l'intelligence et l'esprit pour que tu comprennes. Regardez. Regardez ce détail. Il y aura, ton serviteur fera, donc c'est Siba qui répond à David, verset 11, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne. Donc ce n'est pas une demande, désormais c'est un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, il veille à ce que l'ordre qu'il a donné soit accompli. Mon Seigneur, le roi, ordonne à son serviteur, et Mephibosheth, mangea à la table de David comme... Ah, alléluia! Il mangea, mais comme l'un de ses fils. Il mangea, mais comme l'un des fils du roi. Cela veut dire il était, je n'ai pas dit qu'il est monté en grade, mais il est monté en considération. Alléluia! Et ce matin, Dieu te fait monter en considération pour que tu puisses considérer non pas ton origine dans la chair, non pas ton nom de famille, mais ton rang d'enfant de Dieu. Alléluia! Frères et sœurs, je vous ai souvent parlé de l'amour et de la grâce de Dieu à notre égard comme ses enfants. Et quelquefois, nous serions un de ceux qui, promenant des regards inquiets, on se fait du mouron sans raison, puisque Dieu nous a pris en main. Nous avons été placés dans une place privilégiée. Nous avons du prix à ses yeux. Il s'occupe de tout ce qui nous concerne. Gloire à Dieu. Comme l'un des fils du roi, Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Savez-vous qu'il y a quelque chose qui arrive derrière ce verset que nous venons de lire? Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Donc s'il avait un fils, ça veut dire qu'il avait une femme. Mais oui. À quel moment il a eu la femme? Il a eu la femme pendant qu'il était handicapé. Je l'avais dit, le fait d'être perclu des pieds ne l'a pas empêché de concevoir. Et Dieu veut te faire comprendre ce matin que malgré le fait que tu as des tares dans la chair, comme cela a été vu pour Ruth la Moabite, quand Boaz l'a pris pour femme, Dieu a permis qu'elle puisse concevoir. Je l'avais dit, malgré le fait qu'elle soit étrangère, quand Dieu a fait d'elle objet de l'alliance avec Boaz, Dieu a permis qu'elle enfante. Et ce matin, je vous ai dit qu'il y a dans notre vieille nature des tares, mais n'empêche que malgré tout, Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Il mangeait à la table du roi tous les jours. Et voici la fin. Voici la fin du récit. Donc, et tous ceux de la maison de et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth, donc toujours les mêmes 35 personnes qui travaillaient pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Verset 13 pour conclure. Mephibosheth, lisez, habitait à... Ah, il a déménagé. Il n'habite plus dans la maison de Makir. Il a quitté l'Obédar et il habite maintenant à Jérusalem. Ah bien, moi, un jour, la grâce de Dieu qui m'a été accordée fera que je déménage de chez moi. Vous allez habiter où, pasteur gentil? Alléluia, alléluia. Oh, frères et sœurs en Christ, je vous ai dit que quand la grâce de Dieu me saisit, je peux avoir des vicissitudes ici-bas. Mais Dieu ne m'a pas saisi pour 10 ans, pour 50 ans, pour 100 ans, pour 1000 ans. Il m'a saisi pour l'éternité. Amen. Un jour, je vais déménager, toi aussi, hein. Ah, il faudra déménager. Hein. Oh, je sais que dans ce cadre-là, personne ne peut dire, peut-être que tu as un projet de déménagement, tu vas acheter une maison. Ça, c'est humain, c'est terrestre, c'est pour ici-bas. Mais je parle en application des choses célestes. Il a déménagé. Nous avons vu au départ hein, qu'il habitait dans la maison du vendu, l'endroit sans pâturage, mais malgré tout, la grâce de Dieu, quand le temps arrive, mes bien-aimés, donc il mange à la table du roi comme l'un de ses fils, il a déménagé, il habite à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Ça veut dire qu'il s'est rapproché du royaume. Mais oui, s'il a déménagé, il s'est approché du royaume, parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple qui a été construit par Salomon, mais aussi il y avait la maison de David. On appelait la cité de David Sion. Sion ou la cité de David. David avait sa maison, sa cité, c'est là qu'il habitait. Donc, Mephibosheth a déménagé. Il habitait à Jérusalem. Et je vois pratiquement tous les jours le carrosse royal qui arrive. Et M. Mephibosheth est invité à monter sur le carrosse royal pour être amené à la table du roi. Il a déménagé. Amen. Mais le dernier détail, la fin du verset 13, lisez la fin du verset 13. Ah, la fin du verset 13 nous rappelle, comme un rappel, que sa condition extérieure n'avait pas changé. Il mangeait à la table du roi comme l'un de ses fils. Mais quand vous le regardiez, dans la vieille nature, la tare était toujours là. Mais ce matin, je n'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Je ne veux pas gratter dans ta vie. Je n'ai qu'à gratter dans la mienne. Mais dans ma vieille nature, il y a des tares. Il y a des manquements, il y a des lacunes, il y a des faiblesses. Mais ça n'enlève rien. La grâce de Dieu dont je suis l'objet. Et comme Mephibosheth, tout à l'heure, je vais m'asseoir à la table du roi. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni.